temps d'intervenir. Je remercie Louis de m'avoir invité à vous parler de la formation des médecins. Je partage beaucoup de choses avec beaucoup des chercheurs présents ici, et entre autres avec Patrice, l'intérêt pour le champ médical, mais aussi avec Patrice, le fait que j'ai trop de choses à dire dans un temps trop limité. Voilà. Alors, je sais pas si c'est lui qui me l'a transmis, ou bien Gérard, ou bien voilà. Mais voilà, bon, mes maîtres en la matière, et pas seulement dans cette matière. Donc, je vais essayer de parler. Voilà. Si j'avais eu le temps, pour répondre à la question de Louis, la construction d'objets, j'aurais dû faire essayer de combiner 4 ou 5 choses. Premier point, sur lequel je vais passer vite, mais je les énumère d'abord, comme ça vous verrez un peu ce que j'aurais aimé dire. Premier point, construire l'objet, l'avait intitulé, construire l'objet de l'injonction au sens pratique. J'y reviendrai dans un instant. Deuxième point, je l'ai appelé le regard sociologique, a-t-il l'âge de ses préjugés. Troisième point, plus plat, finalement, comment j'ai travaillé pour essayer de comprendre le point de vue des sociologues sur la formation des médecins, sachant que c'est un travail en cours. Et quatrième point, qui est la thèse centrale de mon topo, qui est le premier obstacle à la sociologie, ce sont les sociologues eux-mêmes. Forcément, je tords le bâton, hein, d'accord. Et cinquième point, quelques propriétés et difficultés des travaux sur la formation des médecins. À partir justement de l'examen de si on veut construire l'objet, comment s'y sont pris les collègues, et si on essaye de reconstituer tout un ensemble, un espèce d'espace de point de vue. Quelles sont les propriétés de leurs travaux, en regardant où est-ce qu'ils ont travaillé, quelle université ils ont étudié, comment ils ont fait l'enquête, etc., etc. On voit surgir des choses qu'on voit pas dans un manuel de sociologie. Alors, construire l'objet de l'injonction au sens pratique, ça avait un aspect un peu biographique. On a tous cité les livres qu'on a bien aimés, et qu'effectivement, un des premiers livres que j'ai lus, un des premiers textes que j'ai lus en sociologie, c'est l'entretien radiodiffusé Bourdieu-Passeron, 67-68, sur le métier de sociologue, où justement on retrouvait cette structure, les faits sont conquis, construits, constatés, sur la critique de l'empirisme, sur le fait que si on interviewe un paysan, c'était l'exemple pris, c'était pas un médecin, on va avoir un discours de déploration, la terre est basse, etc., il vaut mieux mesurer la taille des champs, etc., etc. Donc un des premiers textes de sociologie que j'ai eu à lire, j'étais pas inscrit en sociologie d'ailleurs, c'était celui-ci. Donc après, j'ai lu le métier de sociologue. Donc on peut dire, au départ, j'ai effectivement vu ça comme des injonctions. On pourrait dire pas tant des mots d'ordre, mais des injonctions, un peu, avec l'idée... après coup, je me dis, l'apprentissage d'un métier est souvent fait d'injonctions. Si c'est un métier manuel, l'injonction, elle est par la parole, le geste, etc., mais on peut dire... Donc l'acquisition d'un sens pratique, sans doute, passe par des injonctions. Si on s'arrête à l'injonction et que vous en faire un commentaire, ça devient la position, peut-être, de lectoresse ou scolastique. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin d'injonctions. Du type, faut faire ci, faut faire ça, attention, là, c'est un sens, là, c'est une impasse, etc., etc. Bon, donc je peux dire que mon entrée dans le métier s'est faite d'abord en percevant des injonctions, en les prenant au sérieux ou trop au sérieux. Donc ça a le côté paralysant qu'évoquait Bernard Pudal hier. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé les études de sociologie, de rencontrer très vite les chercheurs ici présents dans la salle, c'est-à-dire de passer des bancs de l'école au séminaire de laboratoire. Donc de passer des injonctions qu'on peut trouver dans un texte et des injonctions de mes professeurs ou des commentaires professoraux à regarder comment les premiers séminaires que j'ai suivis, c'est les séminaires du Centre de sociologie urbaine, ce sont les séminaires de Gérard Moger et Louis Pinto à l'École des hautes études. Donc finalement, la recherche faisant, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc en ce sens, je peux dire que ce qui m'a un peu construit, c'est aussi ça, c'est le passage. Hier, j'insistais sur le fait que pour pouvoir pratiquer la sociologie, sans doute faut-il un espèce de milieu écologique protecteur, mais pas complètement, stimulant, etc., constitué par ces chercheurs de la génération qui vous précède, et puis ceux qui arrivent au même moment, au même endroit que vous. Donc il y a Fabienne ici présente, mais avant elle, je sais pas, Charles Soulier, Bernard Lehmann, avec qui on s'est rencontrés au séminaire de Gérard. Donc voilà, la construction de l'objet pour moi, c'est à la fois des injonctions dans les textes officiels, Mais la prise au sérieux de ces injonctions, la prise au sérieux de l'injonction de maîtriser tout ce qu'on l'histoire de la sociologie, donc d'apprendre à faire des entretiens, mais aussi des analyses des correspondances. Et puis aussi le groupe qui entretient cette croyance dans l'importance de la construction de l'objet, avec à la fois, on pourrait dire, des maîtres possibles dont on voit, dont on lit les travaux, et puis dont on suit le travail, et puis des équivalents qui entretiennent la croyance. Voilà. Et comme j'ai traîné à faire ma thèse, il faudrait que je rajoute une autre génération d'étudiants apprentis, représentés par Julien ici, etc. Voilà. Mais qui m'ont tous beaucoup appris finalement. Alors. Deuxième point, le regard sociologique a-t-il l'âge de ses préjugés ? Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que, finalement, la rupture avec le sens commun... Bon, ouais, je me demandais ce que ça pouvait vouloir dire au début, quand je lisais peut-être Durkheim, mais en tout cas, le métier de sociologue. Et que plus j'ai fait de la sociologie, moins j'ai su vraiment ce qu'était le sens commun au sens général. Mais par contre, plus je me suis aperçu, plus j'ai pensé avec les outils de la sociologie. C'est-à-dire plus j'ai pensé avec ce que je lisais nuit et jour, ou ce que disaient mes profs, ou les chercheurs que je côtoyais. Donc quand j'ai décidé de travailler sur la formation des médecins, on pourrait dire j'ai déjà un tas de questions. Certaines sont explicites et puis d'autres sont incorporées. J'ai déjà un point de vue sur ce que c'est que la formation des médecins, sans même avoir enquêté, on pourrait dire. Bon, j'ai d'abord travaillé sur les kinésithérapeutes, mais sur la fabrication scolaire des kinésithérapeutes et sur la domination médicale dans la manière dont on fabrique les kinés. Après, j'ai travaillé un peu sur les infirmières sans publier du tout, mais avec l'idée d'une série de puzzles pour résoudre des questions un peu différentes à chaque fois, sur l'orientation vers le métier d'infirmière, sur le rapport entre l'éthos, le style de vie des infirmières et le travail pédagogique sur les élèves infirmières. Ensuite sur les sages-femmes, etc. Et donc c'est à ce moment-là que j'arrive à la formation des médecins en disant je complète mon puzzle. D'ailleurs, ma thèse était déjà un puzzle, mais sur un seul groupe, les kinésithérapeutes. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut que je continue à faire des puzzles, j'aime bien ça. C'est-à-dire ouvrir des terrains, poser des questions un peu différentes sur chaque terrain, mais faire un espèce d'échantillon des professions de santé en essayant de réfléchir cet échantillon. Voilà. Donc c'est comme ça que j'arrive à la formation des médecins, où en particulier, où pour l'instant, j'ai pas de terrain pour l'instant sur la formation des médecins, par exemple. Mon terrain sur les médecins, c'est un travail en cours sur l'espace de la psychiatrie, les PUPH en psychiatrie, est-ce que je peux faire la description statistique, etc. Bon, donc j'ai quand même besoin de savoir comment ils sont fabriqués, quelle position ils occupent dans le champ, d'où l'interrogation sur la formation des médecins. Donc, quelles sont les questions qui m'obsédaient et qui continuent à m'obséder? Je pense que j'ai que deux obsessions, en fait, finalement. La première obsession, c'est que font les systèmes d'enseignement, c'est quelque chose sur la violence symbolique, on pourrait dire. Que font les mutilations, que font subir les systèmes d'enseignement aux individus qui y accèdent? Hein, les mutilations spécifiques. Donc on pourrait dire c'est la relation entre système d'enseignement et système de pensée chez Bourdieu. Mais avec l'idée que je suis plus intéressé pour regarder des formations scolaires qui conduisent à fabriquer non pas des philosophes, non pas des sociologues, mais des artisans. D'un côté, mes archives avaient déjà fait trop de travail, donc c'est pour ça que ma thèse ne porte pas sur les artisans. J'étais allé le voir avant de faire ma thèse. Les artisans, les médecins, les kinés, etc., etc. Donc, que produit un système d'enseignement en termes de mutilation, de manière de percevoir et d'agir dans le monde? Donc, si on poursuivait aussi dans les manières de construire le corps comme objet du travail chez les infirmières, chez les kinésithérapeutes, chez les médecins, mais je pense qu'on peut pas dire chez les médecins parce qu'il faut différencier l'espace. Voilà. Donc, première obsession, je crois que c'est la seule. Enfin, j'en ai vraiment que deux. C'est le système d'enseignement et les mutilations. Hein, voilà, dans les sociétés différenciées. C'est un anthropologue Robin Fox, qui disait ça. Les mutilations avant des mutilations génitales au système des thèses, disait-il. Bon, voilà, je suis assez d'accord avec lui. Et donc, je vais poursuivre l'étude des mutilations, des systèmes de mutilation. Deuxième obsession, qui est la réforme de la conduite de la vie. Donc, je formule comme ça, qui est plus liée, qui est liée en partie à ma fréquentation de Weber, de la lecture de Max Weber. Qu'un temps j'ai lu très très attentivement, mais finalement aussi à la lecture de Jacques de France, ses travaux sur la gymnastique, son HDR. Donc j'ai une deuxième obsession qui est les agents de la réforme de la conduite de la vie, et la médecine et la réforme de la conduite de la vie, mais en gardant toujours une obsession pour le système d'enseignement. Donc je préfère m'interroger sur les médecins eux-mêmes ou les infirmières, leur propre réforme, en quelque sorte. Voilà, que font les systèmes d'enseignement, et d'où la question sur le rapport entre l'habitus social et ce que fait l'école à l'infirmière, ou à l'ancienne aide-soignante, etc. Donc je pense que j'ai pas d'autre obsession en sociologie, que finalement c'est ça que je creuse. Alors, venons-en maintenant. Donc, ce qui veut dire que, par ailleurs, je suis porté à penser en termes de champ, à la fois à vouloir faire des monographies comme Fabienne, et puis à penser en termes de champ. Donc, quand j'aborde la question de la formation des médecins, je pense... Alors, c'était mon troisième point. Je ne vais pas dire comment j'ai travaillé. J'y reviendrai s'il y a des questions. Je pense que il est difficile de dissocier rupture et construction de l'objet. On en a parlé hier. Et je pense que le premier obstacle à la sociologie est constitué par la sociologie elle-même. Alors je vais m'expliquer. Je vais dire, il y a deux obstacles liés à la sociologie ou aux sociologues. On pourrait utiliser l'opposition que fait Bourdieu entre lectores et optores pour identifier ces obstacles. Le premier est celle de l'enseignement de la sociologie. Si en France on parle formation des médecins, aussitôt on va vous dire un, sociologie des professions. Deux, on va vous dire Merton versus le combat de deux équipes, Merton versus Becker. Vous pouvez pas échapper à ça. Si vous parlez pas d'eux, vous allez vous faire on va dire oui, mais vous avez et Boys in White et puis The Student Physician et puis voilà, finalement vous étudiez une profession, voilà. Donc je pense que le premier obstacle, c'est les auteurs de manuels qui par ailleurs sont pas que des auteurs de manuels dans le cas de la sociologie des professions, parce que c'est aussi des promoteurs de la sociologie comme profession. Et ceux qui ont écrit les manuels de sociologie des professions, Tripier, Dubard, etc., qui étaient aussi des syndicalistes dans l'enseignement supérieur et en partie basés à Saint-Quentin-en-Yvelines, sont aussi parmi ceux qui ont contribué à faire de l'AFS une association professionnelle qui devrait avoir des réseaux thématiques qui vont reprendre des découpages plutôt tirés du sens commun, etc., etc. Donc, premier problème pour moi, sociologue, c'est le fait que quand les jeunes étudiants ou moins jeunes étudiants on prétend s'intéresser aux médecins, on va d'abord... le premier obstacle, c'est pas le discours des médecins. Je pense pas que ce soit le discours des médecins. Que certes, c'est peut-être qu'il faut s'imposer aux imposants, comme disait l'autre. Le premier obstacle est constitué par les promoteurs d'une défense du corps de la sociologie ou de la sociologie comme profession. Je vais pas plus loin, mais j'ai des arguments supplémentaires, si vous voulez. Deuxième obstacle, il y a quand même des sociologues qui sont allés regarder comment on fabriquait les médecins, dont Hughes, Merton et compagnie. Donc il faut quand même aller voir ce qu'ils ont fait. En tout cas, j'ai cru bon d'aller voir ce qu'ils faisaient. Mais là, avec un espèce de... pas un grand écart, mais on peut dire je fonctionne à la fois avec... il y a bien une bibliographie spécialisée, il y a bien des gens, on peut repérer une vingtaine de livres peut-être... plutôt américains, quelques-uns anglais, moins français, sur la formation des médecins. Donc peut-être ça vaut le coup d'aller voir ce qu'ils ont écrit. Et d'un autre côté, mais on peut penser que doter des instruments de la sociologie générale, qui pense en termes de champ, d'habitus, de trajectoire, d'espace de position, il n'est pas complètement utile d'aller voir ces travaux. Voilà. Je suis allé le voir, hein, voilà. J'ai quand même. Et donc, Donc maintenant, je vais vous parler de l'intérêt d'aller voir ces travaux, justement. Si on va voir ces travaux, ben, ça oblige à faire éclater l'opposition Merton, dominante dans les manuels, mais aussi dans les articles américains, souvent, Merton, Baker. Et donc, on peut trouver un ensemble... Il me reste combien de minutes ? Combien de minutes me reste-t-il ? Oh.
10 bonnes
minutes. Bon, ok. Donc, on a un ensemble de traits distinctifs et de questions qu'on peut poser aux travaux sociologiques sur la formation des médecins en regardant ceux qui ont travaillé effectivement sur la formation des médecins. Bon, d'abord, grosso modo, il me semble qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont un peu collectives. Ils sont plusieurs à faire l'étude, du type Merton et le Bureau de recherche appliquée de Columbia. On ne sait pas exactement le nom, parce qu'on sait qui a dirigé le livre, qui a écrit dans le livre, mais il y a toutes les petites mains de l'affaire, qui ont codé les questionnaires. Et puis, du type Hughes, Baker, etc. Et puis, du type d'un couple d'anthropologues qui a étudié à Harvard dans les années 80, donc un travail en partie collectif. Et puis, après, il y a des thèses individuelles, enfin, apparemment individuelles. Voilà, des thèses, donc des personnes qui sont un peu dans ma situation quand j'étais thésard et ma situation aujourd'hui, que je suis maître de conférence. Comment je fais avec mes moyens? J'ai pas beaucoup de moyens, donc je peux passer 6 mois dans une faculté de médecine, mais je peux pas passer 6 mois dans toutes les facultés de médecine, ou etc. Voilà. Donc il y a déjà un principe de distinction des travaux qui est entreprise en partie collective, plus ou moins bureaucratisée, qui a pas honte de sa bureaucratisation, Merton, ou collective, mais vu comme collégial et qui met en avant la décontraction du travail sociologique, voilà, vous aurez reconnu Howard Baker. Voilà. Relâché entre la forme bureaucratique et la forme relâchée. Alors, tout c'est bon. Mais par ailleurs, ces chercheurs ont eu des élèves qui ont étudié, par exemple, les internes. Ces chercheurs qui, au départ, s'intéressaient aux médecins, mais en fait, finalement, aux premières années d'études, et plutôt à la fabrication de généralistes ou de spécialistes de base, ont eu des élèves qui ont travaillé sur les spécialistes, etc. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de tous les travaux, mais je vais reprendre une série de positions, il me semble, enfin, en tout cas, de points et de lacunes. La première chose, dans l'ensemble des travaux que j'ai consultés, donc qui portent sur l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, et je parle très peu de la France, il y en a moins, et puis je pourrais les réintégrer dans le modèle après. Hein, voilà. On s'intéresse très peu au recrutement. On s'intéresse pas au recrutement des écoles. On a très peu d'infos sur qui sont-ils. Les étudiants, quand ils arrivent, ils ont fait quoi avant? C'est des bons ou des mauvais élèves? Non, on suppose que c'est des bons, ou c'est dit en passant, etc. Faiblement étudié, c'est plus étudié par des historiens. Il y a des historiens de la formation médicale qui, eux, comme ils vont voir les archives des écoles dans les années 30 ou même dans les années, la fin du 19e siècle, ils voient que les écoles, elles s'inquiètent sur le niveau, voilà. Alors, les historiens ont un avantage sur les sociologues, américains notamment, c'est cette perspective historique en disant, il y a des moments où on n'a pas de problème à recruter, il y a des moments où on se dit, oh là, enfin, ils mettent en relation la hausse de l'accès à l'enseignement supérieur et les formes de sélection nécessaires ou pas à l'entrée des facultés de médecine. Bon. Donc, peu de travaux qui vont creuser la question de l'orientation vers l'espace de l'enseignement supérieur et la médecine dans l'espace de l'enseignement supérieur, sauf quelques historiens comme Ludmerer, etc. Et encore moins de travaux qui vont se dire la médecine, le statut de médecin ou l'orientation vers les professions de santé, d'ailleurs, on peut les voir comme un double problème de placement dans l'espace social et de placement dans un champ. D'ailleurs qu'une partie, si on interroge les étudiants, alors moi je l'ai fait sur les kinés, sur les infirmières, maintenant sur les étudiants en médecine, une partie des justifications de l'orientation vers la médecine, ça peut être ou vers la profession infirmière, ou ça peut être des arguments qui sont plus liés à... ou quand on demande aux étudiants, est-ce que vous êtes... quel métier auriez-vous fait autrement? Qu'est-ce que vous n'auriez pas du tout aimé faire? On voit apparaître des principes de classement qui, pour les uns, ont l'espace social en tête. J'aurais pas voulu... je voulais pas être ingénieur, ou je voulais pas... voilà. Et pour d'autres, ont en tête le champ médical. Ah non, mais c'était pas possible d'être infirmière, ou c'était pas possible de... Voilà. ou pour une sage-femme. Non, c'était pas possible d'être infirmière, j'ai pas pu être médecin, mais voilà. Donc deux principes de classement qui préexistent au travail de socialisation d'ailleurs, parce qu'on les si on les interrogeant au début, on voit que ils peuvent avoir des arguments de type légitime dans une profession, sur le soin, le service, la compétence technique, etc., tout ce que Merton avait mis en avant, finalement, comme et qui constitue l'idéologie d'une profession. Mais on a au moins deux principes, voilà, on a au moins deux principes de classement pour comprendre cette orientation, donc ce qu'ils vont y chercher. Alors les sociologues s'en sont pas rendus compte, mais les réformateurs de la médecine s'en sont rendus compte. Ce qui est assez formidable, c'est que si vous lisez le rapport Flexner, qui réforme les études médicales en 1910. Flexner, il avait fait un rapport, une étude comparée des formations des médecins en Europe et aux États-Unis. Il voulait réformer la médecine américaine. C'était lié à John Hopkins University, aux grandes universités américaines qui voulaient contrôler la formation des médecins. Eh bien, on s'aperçoit que dans ce rapport, Flexner, il dit... la France et l'Allemagne, dans la formation des médecins, ils sont très bien sous l'angle... Enfin, grosso modo, l'éthos bourgeois des médecins, la manière de sélectionner les étudiants en médecine en France et en... Le système secondaire, il fait des remarques sur le système secondaire. Le système d'enseignement secondaire produit des individus cultivés, dit pas polis, enfin bon voilà, policés, etc., qui sont parfaits ensuite pour devenir médecins. Par contre, en Angleterre, il y a deux voies d'accès. Et bon, c'est très bien s'ils viennent d'Oxford, mais par ailleurs, voilà. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Il est très critique des États-Unis. 5 minutes, voilà. Très critique des États-Unis du côté marchand de la formation médicale aux États-Unis. Voilà. Donc, la question de quel éthos, quel habitus social on importe en entrant et qui nous conduit ou pas vers la médecine et qui serait efficace ou pas en médecine ou qu'il faudrait privilégier dans le recrutement, elle apparaît chez les réformateurs. Comme la tentative de décrire toutes les écoles des États-Unis. Alors, on lisait Flexner, il y a son rapport, il y a son texte, mais à la fin, il y a une description d'un très très grand nombre d'écoles de médecine des États-Unis, ce qu'aucun sociologue n'a fait, américain n'a fait. Voilà. Alors, je passe sur le recrutement. Deuxième point, le débat sur la structure du curriculum. Est-ce qu'il faut étudier la structure du curriculum? Est-ce qu'on étudie l'ensemble du curriculum et est-ce que c'est une structure structurante? Ben, on peut dire, c'est plutôt les sociologues britanniques qui, finalement, ont été de Bernstein, qui vont dire, il faut regarder ça. Mais l'essentiel des enquêtes, elles vont se concentrer sur certaines années. Elles vont aller regarder les années précliniques ou le début de l'enseignement clinique. Elles vont pas tenir l'ensemble du cursus en disant quelle est la logique du cursus. Pourquoi on apprend les sciences fondamentales au début? Pourquoi après on est en France? Pourquoi on serait externe? Pourquoi on serait interne? Ben, si on prend. Donc une faiblesse de la description de l'institution comme exerçant une action structurante, organisée d'une certaine façon, et surtout une faiblesse de l'interrogation sur pourquoi cette forme. Pourquoi est-ce que on va... Quel rapport il y a entre les sciences fondamentales et l'enseignement clinique? Là aussi, la question elle est posée explicitement dans Flexner, parce que Flexner, le problème de Flexner, c'est la montée en puissance des sciences biologiques et la réforme de toutes les études de médecine aux États-Unis, mais dans le monde entier, en intégrant les avancées de la science actuelle, enfin de la fin du 19e et du début 20e siècle. Et tous les réformateurs que j'ai consultés, puisqu'ensuite, ça sera mon point suivi, enfin un point tout à l'heure, une partie des enquêtes sont liées à des réformes de cursus, tous les réformateurs... Le point commun de toutes les entreprises de réforme, c'est la relation entre la médecine biologique et la médecine clinique. Enfin, pour parler du sous-espace de la médecine vu par Patrice Pinel. Donc, qui va contrôler la formation des jeunes médecins? Qui va contrôler le premier cycle? Qu'est-ce qu'on doit enseigner en premier cycle? Et qu'est-ce que c'est que passer du premier cycle au deuxième cycle? Passer d'une sélection sur la base du cours magistraux, sur la base de l'apprentissage des sciences fondamentales à l'apprentissage clinique. Et qui doit subordonner qui? Enfin, qu'est-ce qui doit être subordonné? Est-ce que la clinique doit être subordonnée à la biologie ou la biologie à la clinique? Bon, la réponse est la biologie à la clinique. Mais voilà. Mais dans les enquêtes, les sociologues, très peu, très 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 peu présents. Et donc peu d'études des spécialisations ensuite. Une exception faite aux chirurgiens. Les chirurgiens doivent fasciner une partie des sociologues, donc il y a des sociologues qui vont aller voir les chirurgiens, parce que le côté... les anthropologues vont voir, parce que les anthropologues ils aiment bien le côté le sang, le sexe, la mort, et donc on peut toujours aller... Non, mais il y a un habitus d'anthropologue, une partie des articles d'anthropologues que je lis, que j'ai lus, on voit tout à fait que leur habitus, c'est oui, c'est mieux s'il y a le côté un peu scandale et machin, enfin, la transgression supposée, si on va voir... la dissection, la chirurgie, plutôt que des choses banales, le TP, où on regarde dans un microscope la cellule, bon, ça excite pas un anthropologue, vous voyez. Faut le dire comme ça, je pense. Pas loin. Voilà. Donc, l'internat, voilà. Je vais une minute, ok. Bon. Dès le départ, une coupure extrême entre compétences statutaires et compétences techniques. C'est-à-dire, dès le départ, le fait que les sociologues vont s'auto-censurer, c'est-à-dire vont dire, nous, c'est les normes, les attitudes, les valeurs. Alors ça, c'est présent chez Merton, forcément. La socialisation, c'est l'acquisition des valeurs de la médecine. Hein. Mais c'est aussi présent chez Baker et compagnie, le couple de départ. En fin de compte, ils s'interdisent de dire, bon, nous, c'est quoi le savoir médical ? C'est quoi l'anatomie ? Ou c'est quoi apprendre l'anatomie ? Ou c'est quoi... peut-être que ça les obligerait à apprendre de l'anatomie, ou apprendre... est-ce que seul un médecin peut le faire ? Je pense pas, mais... voilà. Donc, dès le départ, une espèce de séparation assez radicale, et on va s'interdire, mais jusqu'à très très récemment, s'interdire de dire ça consiste en quoi. Même il y a des sociologues américains, mais qui ont étudié une université canadienne, McMaster, qui est importante dans la question de la réforme des cursus médicaux en Amérique du Nord, disent explicitement, nous, on va laisser de côté les compétences, enfin, savoir et savoir-faire médicaux. Alors, vous voyez, vous étudiez la formation des médecins, mais on laisse de côté savoir et savoir-faire médicaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à étudier ? Alors, il me reste deux points. Alors, les deux points, je vais juste les énumérer. Oui, mais l'ultime, ça va être le point de vue qui est privilégié, c'est le point de vue de l'étudiant, globalement, et c'est le point de vue de son adaptation. À ce cursus et bon après les points de vue peuvent changer mais jamais sur les enseignants, jamais sur les chercheurs, etc. Les deux derniers points, c'est ce qui nous en dit beaucoup sur qui sont les plus importants, mais que je voulais donner à la fin seulement. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Une opposition entre donc, absence de construction de l'espace des universités, des écoles de médecine aux États-Unis, notamment, puisqu'il y a plus de travaux aux États-Unis. Et donc, on peut trouver... les uns étudient une école qui va fabriquer des médecins ruraux, c'est Baker. Les autres étudient Cornell ou Harvard, etc. Et c'est Merton et d'autres. Donc... et une partie de ce qu'il raconte est liée, et je garde une minute quand même, et le partie de ce qu'il raconte est liée à l'école qu'ils étudient. Pourquoi Baker est obsédé par l'adaptation, la culture étudiante et le poids de la culture étudiante sur la fabrication des médecins, ou l'autonomie, la contre-culture étudiante, on pourrait dire, hein, c'est ça, les visions de la culture étudiante en médecine comme contre-culture par rapport au corps professoral, c'est parce qu'il n'y a aucun enjeu de choisir un internat, une spécialité dans l'école qu'il étudie, où ils vont tous se retrouver soignés dans le Kansas, etc. Et donc, il ne peut pas voir que la question de choisir le bon hôpital, le bon internat, enfin, le bon résidanat, peut être une question cruciale. Enfin,
merci Christophe.
Je suis obligé de donner le dernier point quand même. Ces enquêtes sont faites pour un bon tiers d'entre elles dans un contexte de réforme des cursus, et parfois avec main dans la main avec des médecins. Donc on pourra en reparler, mais ils inscrivent dans un contexte de réforme, et les réformateurs ont déjà en partie posé les questions que les sociologues vont reposer. Donc sur qu'est-ce qu'un étudiant en médecine, sur est-ce qu'il ne faut pas revoir la conception du patient chez le médecin, etc., etc. Les sciences fondamentales, les sciences, la clinique, et donc Et ce choc n'en fait que reprendre ça, au bout du compte, à mes yeux.